Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour cette partie 2 de notre émission consacrée au prix Bayeux. Et comme toujours, je serai accompagné de Gaspard et d'Enzo.
Retour sur le prix Bayeux, Calvados Normandie, des correspondants de guerre.
Il y a la gerbe de flamme, il y a le blast, il y a la poussière.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Pour débuter cette partie consacrée au prix Bayeux, Gaspard et Enzo vont aborder des conflits comme au Liban, en Ukraine ou encore le rôle des femmes dans la guerre. Mais tout d'abord, nous allons commencer par écouter le prix Bayeux selon le point de vue des élèves. Elisa et Lucie vont pouvoir nous en dire un peu plus.
Bonjour, moi c'est Elisa et avec Lucie, nous sommes deux élèves de Terminale HGGSP et nous avons eu la chance de participer au voyage scolaire du prix Bayeux des correspondants de guerre 2 années de suite. C'est un voyage qui demande de l'organisation mais également des renseignements sur les conflits qui y seront abordés. Avant de partir, nous avons une séance sur les conflits actuels et également une séance de visionnage de tous les reportages se présentant au prix lycéen, puis un vote de celui que l'on a le plus aimé. Ce voyage nous apporte beaucoup en termes de connaissances sur les conflits qui nous entourent. Cependant, on passe par toutes les émotions. On connaît des moments de tristesse et de pleurs face aux nombreux témoignages et reportages difficiles à entendre et à visionner. Mais on connaît aussi de super moments joyeux qui nous laissent de très bons souvenirs. L'aspect colonie entre potes règne fortement pendant le voyage. Les fous rires pendant les repas ont été probablement les meilleurs moments du voyage. Sans oublier notre mythique retour en bus sur les musiques du lac du Connemara ou la chanteuse Aya Nakamura avec Clément, Juliane, Clémence qui étaient nos DJ principaux avec une petite participation de Jules et Gaspard vers la fin. Ainsi, des affinités se créent et malgré les thèmes sensibles abordés, les rires et la cohésion de groupe sont très présents du début jusqu'à la fin. Même lors du retour au lycée, nous sommes toujours aussi soudés et nous sommes très reconnaissants de pouvoir vivre ça pendant notre adolescence et durant nos années de lycée.
Alors moi c'est Lucie et c'est vrai, Bayeux est riche en émotions mais également riche en moments forts avec des rires et de nombreux partages. Ça nous permet de mieux nous connaître, de faire de nouvelles rencontres, mais aussi de renforcer les liens avec nos connaissances du lycée. Bayeux est un véritable voyage d'échange, peu importe nos niveaux en classe. Tout le monde arrive à trouver sa place et nous rigolons tous ensemble. Ce sont des moments toujours dans la bonne humeur. Beaucoup de rires du matin jusqu'à tard le soir, souvent en compagnie des professeurs. Les fous rires sont très présents tout au long du séjour, avec des concerts improvisés, les repas à en mourir de rire avec tout le groupe resteront des moments gravés pour chacun d'entre nous. Les relations entre nous et nos professeurs se renforcent aussi grâce aux moments passés avec eux et aux rires sur les différents chemins que nous avons faits tout au long du voyage. Il est important de le souligner, les profs peuvent avoir aussi beaucoup d'humour et de second degré. On ne s'ennuie jamais à Bayeux. Entre des danses, des réunions nocturnes en compagnie de Jules, Gaspard, Clément, Enzo, Ethan et encore bien d'autres, à faire des jeux avec les moyens du bord où nous passions de longs moments, tout en essayant de rester discret afin de ne pas réveiller Madame Poulolo, qui était quand même venue nous voir au final. Les concerts dans les douches communes, où l'eau était chaude si on avait de la chance, et où les gels douches se passaient de porte à porte, car il y en avait toujours au moins un qui avait oublié le sien à l'étage. On garde aussi un bon souvenir des repas où nous étions 5, 6, parfois 7, autour d'une petite table où nous rigolions jusqu'aux larmes pendant 30 minutes. Mais nous avons savouré chacun de ces repas après des journées intenses en émotions. Les moments d'autodérision et de détente étaient primordiaux pour tous. Ils nous permettaient de décompresser après des journées intenses. Enfin, les nuits passées dans le même logement, ça ne pouvait que nous rapprocher et créer des moments forts. Durant ces 3 jours, des anecdotes, il y en aura eu des drôles, des marquantes, des émouvantes, et celles-ci resteront pour la plupart des souvenirs inoubliables pour chacun.
Merci Elisa d'avoir partagé votre opinion sur ce prix. Maintenant, Noan va nous faire la description d'une photo que nous avons croisée au prix Bayeux.
Écoutez.
C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
Encore une histoire de migration. Dans l'immensité de l'eau, le corps étendu d'un homme. Le cadavre d'un réfugié somalien. le visage blafard est illuminé par la seule lumière des caméras. Pas de bateau, le vide absolu. Le fond de la mer l'a recueilli. Il a trouvé non pas la terre promise, mais la paix.
Il s'appelait Omar. Omar vivait dans un petit village de Somalie, appelé Selbouriar. Là-bas, il se demandait comment nourrir sa famille. Un soir, son frère Mohamed est mort, faute de nourriture et de soins. Cette mort a marqué un tournant car Omar comprit qu'en restant ici, il condamnait aussi sa fille. Il a alors décidé de partir avec elle. Le voyage a duré 4 mois, 4 mois de peur et d'incertitude. Sur la route, Omar faisait tous les petits boulots pour survivre et économiser. Portait des sacs dans les marchés, travaillait dans les champs, nettoyait des boutiques. Souvent, il était payé en nourriture. Chaque soir, il comptait ses maigres économies et se répétait que tout cela avait un sens. Lorsqu'il arriva enfin à Berbera, une ville côtière, il était épuisé mais déterminé. Là-bas, il trouva des passeurs pour tenter de la traverser vers le Yémen. Leur attitude l'inquiétait, mais il n'avait plus le choix. Il donna toutes ses économies pour 2 places, pour lui et sa fille. Les passeurs lui donnèrent rendez-vous le lendemain matin sur la plage de Batal. Cette nuit-là, Omar dormait peu, serrant sa fille contre lui. À l'aube, sur la plage, ils étaient 60, pour seulement 2 petites embarcations. L'angoisse monta. Au moment d'embarquer, un soldat armé s'approcha d'Omar et lui ordonna de lui donner l'enfant. Omar comprit immédiatement ce que cela signifiait. Malgré la peur, il refusa. Il fut alors frappé à coups de crosse. La violence provoqua la panique. Dans la confusion, Omar réussit à confier sa fille à une femme cachée sous les autres corps. À cet instant, il sut qu'il avait accompli l'essentiel et arrêta de lutter. Son corps fut jeté dans le golfe d'Adem. Emporté par les vagues, il s'appelait Omar, il est mort en voulant offrir une vie à sa fille.
Merci à vous deux, Noan et Raphaël, d'avoir lu cette photo-fiction. Alors Daphné, est-ce que tu aurais le plaisir de nous lire les carnets de bord de Laura, s'il te plaît ?
Tout à fait. Carnet de bord. Nous avons été voir un film dans un petit cinéma qui se nomme le cinéma Méliès. Il s'agit du film Le Quatrième Mur, une tragédie qui raconte l'histoire de Georges en 1982 au Liban. Pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges se rend à Beyrouth pour un projet aussi utopique que risqué, mettre en scène Antigone, afin de voler un moment de paix au cœur d'un conflit. Les personnages sont interprétés par des acteurs venant des différents camps politiques et religieux. Perdu dans une ville et un conflit qu'il ne connaît pas, Georges va devoir faire face à la réalité de la guerre. C'est un film très touchant qui m'a bouleversée. Certaines répliques du film m'ont marqué comme « Il faut que les journalistes voient ça, des orphelins ». Cette réplique a été prononcée lors d'un bombardement au Liban.
Merci beaucoup Daphné pour cette lecture. À présent, nous allons passer à une chronique sur Le Quatrième Mur, un film que nous avons pu visualiser durant notre voyage à Bayeux. Je laisse la parole à Elisa et Maureen.
Dès notre arrivée à Bayeux, à l'occasion du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, nous sommes allés visionner le film Le Quatrième Mur au cinéma Le Méliès.
Ce film a été réalisé par David Hoelfen d'après l'œuvre de Sorge Chalandon, parue en 2013. Nous y suivons Georges, interprété par Laurent Lafitte, qui est un occidental parti au Liban pour rendre hommage à son ami mourant en montant la pièce de théâtre Antigone d'Anouilh. Toutefois, nous sommes en 1982 et Beyrouth est alors assiégé, tiraillé entre la multitude de groupes politiques, idéologiques, religieux, souvent les trois. Aussi, son but est d'instaurer une trêve, bien qu'éphémère, pour montrer que la paix est toujours possible, même dans la discorde.
Dans ce contexte tourmenté, Georges découvre rapidement que les liens unissent alors que d'autres divisent, que certaines appartenances sont favorables alors que d'autres sont préjudiciables et que cela varie selon le point de vue. Il apprend aussi que les alliances évoluent constamment, qu'elles se font et se défont à un rythme infernal et que, dès lors, sa vie dépend absolument de sa capacité à se tenir au courant et à s'adapter.
Afin d'octroyer une victoire à la paix, Georges tente tant bien que mal de réunir un membre de chacun de ses camps pourtant ennemis, méfiants et rancuniers pour les unifier. De ce fait, Georges visite Beyrouth et rencontre les principaux acteurs du conflit avec l'aide non négligeable de Marwan, qui, joué par Simon Abkarian, est à la fois le chauffeur et l'hôte de Georges, mais également un Libanais druze dont la communauté a vu le jour au Liban et est musulmane hétérodoxe.
Plus tard, au fil de ses pérégrinations, Georges s'entretient avec Imane, qui incarnera Antigone elle-même. L'héroïne est éponyme de la pièce de théâtre. Donc, il tombe éperdument amoureux. Et c'est justement à partir de ce moment où il embrasse les enjeux du conflit dans leur totalité, où il engage de sa personne dans ses relations avec les locaux, les lieux et l'histoire qu'il commence à s'investir pleinement dans son rôle de metteur en scène. Et en même temps, la pièce de théâtre gagne aussi en profondeur en s'ancrant dans la réalité, ce qui rend le théâtre presque réel, ou en tout cas réellement concret.
À l'inverse, au fur et à mesure du film, la réalité se renverse. Des offensives sont menées d'une violence inouïe. Le fils de Marwan meurt, Imane est tué, condamné à mort, comme Antigone, pour ses origines palestiniennes. Georges est dévasté. Il en vient même à tuer, de ses propres mains, l'instigateur de la tuerie qui a remporté sa bien-aimée. Finalement, suite à l'invasion israélienne, la situation dégénère encore un petit peu plus, comme si c'était possible. À tel point qu'il n'est plus possible pour Georges de rester. Il a cependant fini par s'attacher, par comprendre cette culture, par apprécier ses mœurs.
Ses nouveaux amis parviennent pourtant à le convaincre de partir. Marwan l'escorte ainsi jusqu'à l'extérieur de Beyrouth, enfin sur une petite partie du chemin. En effet, en longeant une bâtisse à demi écroulée, il tombe nez à nez avec un char d'assaut israélien qui les cible. Marwan périt au premier tir, Georges parvient à se réfugier derrière les décombres où sont aussi cachés des soldats qui attendent la mort. C'est exactement à ce moment-là que les derniers lambeaux de réalité s'envolent, laissant la place libre au théâtre. Georges se lève et avance fièrement, bien que directement visé par le canon du char, et puisque le film s'arrête sur cette image, il en est de même de cette chronique.
Merci beaucoup Maureen et Elisa pour de nous avoir permis de redécouvrir ou de découvrir ce film pour certains. À présent, Soline et Clément vont nous lire un extrait d'Antigone, une pièce qui domine les scènes de ce film.
Alors oui, donc moi je vais faire Créon et Clément il fera Antigone. Bon. Tu m'amuses.
Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran, voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur.
Eh bien oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Et je ne le voudrais pas.
Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus. Peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'auriez pas voulu.
Je te l'ai dit.
Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le savoir. Et c'est cela, être roi.
Oui, c'est cela.
Pauvre Créon, avec mes ongles classés et mes pleins de terre et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras. Avec ma peur qui tord le ventre. Moi, je suis reine.
Alors, aie pitié de moi, vie. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer avec toi encore. J'ai assez payé.
Non. Vous avez dit oui. Vous ne nous arrêterez jamais de payer maintenant.
Mais bon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Et le gouvernail est là, qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le mât craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer. Et toutes ces brutes vont crever, toutes ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, à leur précieuse peau et à leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiné, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudra pas payer trop cher un jour et si on pourra encore être un homme après? On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s'avance. Dans le tas, cela n'a pas de nom. C'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la veille. Il n'a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui ait un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela?
Je ne veux pas comprendre. C'est bien pour vous. Moi je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir.
C'est facile de dire non.
Pas toujours.
Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche. C'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse ou de l'amour? Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont, se poussant les unes après les autres, courageusement, sur le même chemin. Et si elles tombent, les autres passent. Et il peut s'en prendre autant que l'on veut. Il en restera toujours une de chaque espèce, prête à refaire des petits, et à reprendre le même chemin, avec le même courage, toutes pareilles à celles qui sont passées avant.
Quel rêve, hein, pour un roi des bêtes. Ce serait si simple.
Merci à vous deux, Soline et Clément, pour cette belle prestation et de cette pièce magnifique.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Encore merci beaucoup à Soline et Clément de nous avoir livré cette prestation. Maintenant, je vous laisse accueillir Daphné, Raphaël, Enzo et Chloé pour débattre sur ce film avec des avis plutôt mitigés, si je le pense bien.
Alors moi, personnellement, j'ai pas beaucoup aimé le film. Déjà, je trouve que le film manque un peu de scènes, de caractérisation des personnages. Voilà, je trouve qu'on n'a pas assez de temps pour s'attacher aux personnages et les éléments sont trop dramatiques par rapport au peu d'attachement qu'on peut avoir envers les personnages.
Moi, j'aimerais bien contredire cet avis puisque moi, je trouve que justement, le film est fait de telle sorte que dès le début, on rentre directement dans l'univers des personnages. On se rend compte que le personnage principal il est tiraillé entre l'idée d'exaucer le vœu de son ami qui est de réaliser une pièce de théâtre et celui d'essayer de faire le lien entre toutes ces cultures différentes qui en sont au Liban et d'essayer de fonctionner avec en fait. Et du coup je trouve que finalement en deux heures de film on a accès à un panel très très large de personnages, de cultures qui sont assez bien détaillées malgré le peu de temps qu'on a pour y arriver.
Ouais, le problème que je trouve avec ce qu'il a voulu montrer dans le film, donc, on sait pas vraiment ce qu'il a voulu montrer. Il veut que toutes les cultures soient ensemble, que le théâtre dépasse la guerre, sauf qu'en fait ça marche pas. Hein. On le voit dans le film, hein, quand il organise ses pièces de théâtre, à chaque fois ça se finit en dispute entre les différentes coutumes, les différents peuples. Donc voilà, au final on sait pas trop ce qu'il voulait dire.
Moi ce que j'ai aimé c'est le côté... un peu imparfait du personnage principal, qui a un côté un petit peu peut-être post-colonial, qui n'a pas forcément conscience de sa part dans le conflit, qui ne se préoccupe pas des tenants et des aboutissants, auxquels d'ailleurs il ne comprend rien. Et il y a aussi un peu l'idée naïve, sûrement, que l'art subsiste en temps de guerre. Mais j'ai aimé ça.
Moi, je trouve que justement, en fait, c'est le personnage qui, au départ, comme l'a dit Daphné, ne comprend rien à ce conflit, il veut rester extérieur, pour lui la priorité c'est la pièce de théâtre, qui au final, à la fin du film, va quand même tuer par amour, parce que la fille dont il est tombé amoureux a été assassinée, donc au final il se sentait extérieur, il était extérieur au conflit, et parce qu'il y est arrivé, parce qu'il a voulu monter sa pièce de théâtre, il est rentré dans le conflit, et il, en fait c'est vraiment la puissance de passage à l'acte en fait, et de la prise de conscience de cette guerre en fait, par un Français qui n'en avait absolument pas conscience.
Alors moi, je trouve un peu l'inverse. C'est que moi, je trouve que le personnage de Georges, il veut paraître un peu nonchalant. Sauf qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Il veut tout contrôler, comme une pièce de théâtre au final, alors que c'est la vraie vie. Et ça en devient insupportable, je trouve.
De plus, le fait que l'utilisation du théâtre dans la guerre et qu'elle soit à ce point-là centrale et qu'on... On s'éloigne vraiment du milieu de la guerre pour se concentrer vraiment sur le théâtre pendant une bonne partie du film, ça peut paraître un peu naïf, voire limite artificiel. Donc moi, personnellement, j'ai pas trop aimé ce côté-là qui faisait vraiment ressortir de l'aspect de la guerre, alors que la guerre doit être présente même dans l'art, hein, comme on l'a pu le voir historiquement.
Alors moi, je suis pas d'accord, parce que justement, je trouve que c'est une nouvelle manière d'appréhender et d'aborder le thème de la guerre. À Bayeux, on a la chance de voir énormément de films et de reportages sur la guerre qui, au final, sont... finalement assez similaire dans le sens où on va montrer des images choquantes, on va faire témoigner les gens, on va montrer les bombardements, les villes détruites, etc. Et là, justement, c'est vraiment... On raconte la guerre. On a quand même la notion de... On comprend la guerre. On voit les bombardements, on voit la différence des cultures, la difficulté que les cultures ont à communiquer entre elles. Mais en même temps, on a l'aspect théâtral qui amène quelque chose un petit peu en plus, qui va amener une nouvelle dimension qui va nous permettre de voir la guerre sous un angle différent.
En soi, je peux être d'accord avec toi sur certains points, mais je pense que justement le problème vraiment central dans cet aspect du théâtre dans la guerre, c'est vraiment le manque de scènes de caractérisation. On a vraiment peu de scènes qui nous font nous rapprocher des personnages véritablement. Et c'est ça vraiment le problème, c'est qu'on ne comprend pas vraiment en profondeur sa motivation de faire du théâtre, hein, parce que c'est bien hein, faire du théâtre dans la guerre, etc. Ça peut se justifier, ça aurait pu arriver historiquement, des gens qui voulaient faire du théâtre pendant la guerre pour sortir un peu de cette idée de guerre. Mais malheureusement, je trouve qu'on n'a pas assez de scènes qui nous font comprendre vraiment pourquoi le personnage pense comme ça, pourquoi il veut à ce point-là faire du théâtre dans un tel milieu, parce que c'est pas anodin. Et vraiment, je pense que c'est ça vraiment moi le problème central qui m'a déplu avec ce film. C'est le manque de scènes de caractérisation des personnages.
Moi, j'étais plutôt d'accord avec Chloé. Je trouve que même si on n'a pas le détail du pourquoi, du comment, des raisons qui poussent chaque communauté à s'impliquer dans la guerre, en tout cas, on comprend que c'est vraiment toutes les communautés qui se battent les unes contre les autres. Et d'ailleurs, à un moment, une des phrases que j'ai retenues du film, c'est « Le Liban tire sur le Liban ».
Et au final, Enzo, tu dis qu'on ne comprend pas vraiment les scènes de caractérisation des personnages, etc., pourquoi il fait ça. Mais au final, on se rend compte que dans cette guerre, même les ethnies, les différents personnages ne savent même pas pourquoi ils se font la guerre. Ça a toujours été là. En fait, je trouve que c'est une manière assez, assez simple et assez réaliste de montrer en fait, la réalité de la chose. C'est qu'on leur a dit, on n'est pas d'accord avec ces gens-là, on est contre ces gens-là. Bon, ça sera comme ça. Et en fait, le personnage principal ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on ne sait pas exactement pourquoi faire du théâtre. Après, on sait que c'est parce que c'est un vœu de son ami, etc. Mais il ne veut pas s'impliquer dans le conflit. Le conflit, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Mais en même temps, personne ne sait. Quand on va essayer d'en parler avec les différentes ethnies, même les ethnies répondent par des réponses floues. On n'a pas d'éléments précis.
Je comprends ce que tu veux dire, mais malheureusement, en vrai, toute œuvre de fiction, que ça soit de la littérature, du théâtre, du cinéma, des mangas ou quoi que ce soit, ça nécessite vraiment des scènes qui nous font nous rapprocher des personnages. Et en fait, c'est ça la distinction vraiment entre la fiction et le documentaire, j'ai envie de dire, parce que le documentaire est là juste pour nous montrer, il n'y a pas vraiment de scènes qui nous font nous rapprocher des gens, etc. C'est pas le but, en même temps, d'un documentaire. Et le but d'un film, c'est de nous rapprocher des personnages, beaucoup de scénaristes peuvent dire que le but vraiment d'un film et d'une fiction, c'est que le spectateur puisse s'identifier vraiment au personnage. Et là, c'est vraiment pas possible parce qu'on n'a pas la possibilité de s'identifier au personnage, le peu de temps qu'on passe avec et le peu de scènes qui nous permettent de s'identifier à lui.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Enzo, moi je suis totalement d'accord avec lui sur le fait qu'on ne peut pas s'identifier au personnage parce que nous on ne la connaît pas vraiment la guerre, on n'est pas dans un pays en guerre. Donc les seules personnes à la limite en regardant le film, ce sont des personnes qui auraient fui la guerre. À la limite, vu qu'on est sur un metteur en scène, des personnes qui seraient metteurs en scène en France. Et donc c'est un public assez restreint au final.
Alors moi je suis pas trop d'accord, puis j'aimerais bien rebondir sur Enzo, ce que tu disais sur le fait que dans un film, l'objectif c'est de se rapprocher des personnages, etc., de se voir en eux. Alors j'aimerais juste rappeler la scène au final de fin où le personnage principal il y a eu une tuerie dans un des, il y a eu un massacre dans un des quartiers. Personnage principal, il cherche son amante dans tout le quartier. On voit les corps par terre, on voit les femmes qui ont été violées. Il y a des gens qui survivent, qui marchent, tout ça. On le voit, lui, il cherche dans la poussière. Est-ce que dans cette scène-là, on ne se rapproche pas du personnage quand même ? On se rend compte là du sentiment de recherche, de l'impuissance. Et des personnages, et c'est là dans cette scène-là, est-ce qu'on se rapproche pas au final du personnage dans la réalité de la guerre ?
Merci beaucoup à vous quatre d'avoir partagé vos convictions à propos de ce film qui a suscité beaucoup de débats entre vous, je viens de le constater. Enfin, pour clore cette première partie, Gaspard va nous lire une description d'une photo accompagnée de la photo-fiction de Lola, Noan et Lilian, son petit frère.
Goma, capitale de la République démocratique du Congo. Une rue déserte dans la ville. Les rebelles du M23 ont repris le contrôle aux forces gouvernementales qui se sont enfuies. Les soldats ont laissé par terre leurs uniformes, leur matériel. L'avenir en est jonché. Il y a des tas, partout. Pas d'humains, juste les débris de la guerre. On dirait la fin du monde.
Chakadi, la radio du lycée Prévert.
La rue s'est tirée devant eux comme un long souvenir seul. Le vent poussait parfois un morceau de tissu militaire, et cela faisait un petit froissement sec, comme un animal qui se déplace. Le genre de bruit qui peut faire courir le cœur.
Mumba, j'aime pas ici. Est-ce qu'on peut prendre notre rue ?
Non, celle-là, elle est bloquée. T'inquiète pas, on va juste marcher vite.
Il est ringard. Il y a des habits partout par terre. Et il y a des trucs qui brillent.
Les douilles entraient en collision doucement sur leurs chaussures, faisant un cling qui sonnait trop fort dans le silence. Même les feuilles dans les arbres semblaient bouger avec précaution.
C'est rien ça, c'est juste des vieux trucs. Ils ne servent plus, faut juste regarder devant toi.
Et si quelqu'un sort d'une maison ou si on nous regarde ?
Non, il n'y a personne.
Il disait ça sans y croire. Ses yeux faisaient des petits allers-retours rapides, comme ceux d'un chat qui sent un danger mais qui ne veut pas le montrer. Un bruit métallique claqua au fond de la rue. Peut-être une plaque, peut-être quelque chose d'autre. Un son bref, trop sec.
On loupe pas. Je crois qu'il y a quelqu'un.
Non, c'est juste le vent. Viens, on continue. Faut pas rester ici.
Le vent, justement, s'engouffra soudain entre deux maisons, produisant un sifflement long, comme un souffle qui hésite entre prévenir et pleurer. Kimia trembla, Mulumba aussi, mais il l'attira doucement.
Mulumba, j'ai peur.
Moi aussi, un peu. Mais on rentre, ok? Après, maman va encore nous humilier parce qu'on a mis du temps. Tu veux qu'elle crie encore?
Non.
Ils avançaient dans une rue où même les ombres semblaient se cacher. Chaque pas faisait un bruit que leurs oreilles trouvaient trop fort pour être normal. Le ciel paraissait plus bas que d'habitude. Au croisement, un morceau de tôle vibra, frappé par une rafale. Un bang sec suivi d'un grincement. Kimia sursauta si fort qu'elle manqua de tomber.
Mulumba, j'ai vraiment trop peur. J'ai l'impression qu'on ne va jamais rentrer.
Mais si, on va rentrer. Regarde, c'est la dernière rue et après c'est la maison. Tu me lâches pas, ok?
D'accord.
Ils traversèrent le grand carrefour. Ici, le sol était presque nu, comme si tout ce qui faisait du bruit avait été balayé. Juste le silence. Un silence qui pèse. Un silence qui sait. Un léger clac retentit quelque part. Pas très fort, mais assez pour figer leurs pas pendant un instant. Puis un autre son, très court, rapide, comme une piqûre dans l'air. Les pigeons des toits s'envolèrent d'un coup, leurs ailes frappant l'air comme des drapeaux en panique. Et tout redevint calme. Trop calme. Le genre de calme qui tombe d'un seul coup comme un rideau. Au milieu du carrefour, les pas murmurés dans la poussière cessèrent. La rue, encore une fois, retint son souffle.
Waouh ! Merci beaucoup pour cette photo-fiction magnifique, Lola, Noan et Lilian. À présent, je laisse la parole à Enzo, votre fidèle animateur, qui va vous présenter aux côtés de Gaspard la suite de cette émission consacrée au prix Bayeux partie 2. Merci de m'avoir écouté, cher auditeur, et à bientôt pour une nouvelle émission Bayeux.
On bascule sur un autre terrain, l'Ukraine. Là, on va parler d'infos, de récits et surtout de ce que ça fait concrètement quand la guerre s'installe dans le quotidien. Pour ouvrir cette partie, on va commencer simple avec une voix, un carnet. Tout de suite, on écoute Laura avec sa lecture du carnet de bord.
Carnet de bord. Lors de cette visite de l'exposition sur les correspondants de guerre écrivains, j'ai été marquée par un journaliste et écrivain ukrainien nommé Andrei Kourkov. Je notais une de ses citations. Les gens à l'étranger et en Europe comprennent mieux les raisons de la guerre. Cette citation souligne que la couverture médiatique et les témoignages, comme ceux d'Andrei Kourkov, permettent aux populations étrangères de mieux saisir les causes et les réalités des conflits en Ukraine. Elle met en lumière l'importance du travail des journalistes pour éclairer et sensibiliser l'opinion internationale sur les crises humanitaires. Elle a aussi dit qu'écrire de la fiction pendant la guerre est une trahison, car la fiction est un plaisir et qu'il n'y a aucun plaisir dans la guerre.
Merci Laura. Et du coup, on reste sur cette idée de terrain et de témoignage. On va aller sur un autre angle, celui des journalistes, parce que raconter, enquêter, documenter et exposer, et parfois, ça coûte très cher. Là, je vais vous parler de Anthony Lalican, sur des risques du métier et sur la mémoire de ceux qui le font, avec Enzo tout de suite.
Aujourd'hui, on va parler d'une information qui a secoué pas mal de rédactions, la mort du photojournaliste français Anthony Lalican. Il a été tué en Ukraine le 3 octobre 2025 pendant un reportage dans l'est du pays, dans la région du Donbass. Ce que raconte la presse d'abord, c'est le fait brut. Le Monde parle d'une attaque de drone au matin et rappelle qu'il était sur le terrain pour documenter la guerre, comme tant d'autres reporters depuis 2022. Reuters, de son côté, insiste sur un élément qui glace un peu, en vrai, le fait que l'équipe était identifiée presse avec l'équipement de protection et que malgré ça, le drone a frappé. Et Reporters sans frontières va plus loin sur l'interprétation en évoquant une attaque délibérée ciblée près de Kramatorsk avec un collègue ukrainien, Georgi Ivanchenko, gravement blessé. Ensuite, il y a l'angle judiciaire. France 24 explique que le parquet national antiterroriste, le PNAP, a ouvert une enquête en France pour crime de guerre. Et là, on comprend que ce n'est pas seulement un drame de plus dans une zone de guerre, c'est aussi potentiellement une affaire de responsabilité, de preuve et de qualification pénale. Du coup, la question devient simple mais lourde. Est-ce que oui ou non, on a visé un journaliste en tant que journaliste parce que c'était un journaliste ? Pour parler de Bayeux 2025, parce que ce décès arrive un peu à un moment très particulier, le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre se tient du 6 au 12 octobre 2025, donc littéralement dans les jours qui suivent. Bayeux, ce n'est pas juste une remise de trophée, c'est aussi un moment où on met en avant le travail des reporters et où on rappelle ce que ça coûte parfois. Il y a notamment le mémorial des reporters avec la stèle, les noms, l'hommage. Et cette année, la cérémonie a pris une dimension encore plus concrète parce qu'un hommage à Anthony Lalican a été rendu pendant la semaine du prix, notamment au moment de la remise des prix. Et c'est là que le lien est fort. Bayeux 2025, ce n'est pas un événement à côté de l'actualité. L'actualité l'a rattrapé de plein fouet et ça transforme le prix en rappel très direct de sa raison d'être. Récompenser le reportage de guerre, clairement, oui, il le faut. Mais surtout, rappeler que l'information sur le terrain, ça paie parfois au prix le plus élevé. Voilà. Et si on doit garder une idée cet après-midi, c'est peut-être celle-ci. Quand on dit correspondant de guerre, ce n'est pas une formule, c'est un métier, une mission, et parfois, tragiquement, un risque mortel. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Alors, après ça, on avait besoin de prendre un peu de recul et d'aller chercher une parole plus directe, plus ancrée dans le terrain. On enchaîne avec une interview de Maureen Mercier. Elle va nous aider à comprendre ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas et comment on travaille quand tout bouge autour de toi. Allez, on t'écoute.
On voudrait savoir du coup où est-ce que ça en est la situation en Ukraine, parce qu'on sait que vous y vivez toujours.
Alors, je pense que s'il faut être court, pire que jamais. On parle de moins en moins d'Ukraine, malheureusement, mais la situation est effroyable. C'est-à-dire que sur les plus de 1200 km de ligne de front, les troupes ukrainiennes n'arrivent pas à contenir la Russie qui avance lentement mais sûrement. Alors quand on voit ça de loin, on se dit que les lignes de front bougent à peine, mais en fait c'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'hommes qui tombent, qui sont mutilés. Et puis des villes, je prends l'exemple de la capitale où très franchement on se sentait quasiment en sécurité jusqu'à il y a quelques mois. Il y a un an et demi, quand il y avait des attaques massives, c'était 100 drones qui arrivaient sur la capitale. Là, c'est 700 drones qui frappent la capitale sur des nuits entières avec des missiles balistiques. C'est pas du tout pour parler de moi, c'est plutôt pour dire que moi j'ai la chance de vivre en hyper-centre-ville. Donc c'est des zones qui sont plutôt préservées parce qu'il y a de la défense antiaérienne qui est efficace, il y a le palais présidentiel qui est pas très loin, à 1,5 km. Ben, j'ai deux missiles balistiques qui sont tombés à 200 mètres de chez moi il y a de cela à peu près un mois. C'est des choses qui n'arrivaient pas et qui maintenant arrivent. Le centre-ville de la capitale, qui était l'endroit et de loin le plus protégé du pays, c'est dire ce qui se passe ailleurs sur l'ensemble du pays, ben voilà ce qui arrive aujourd'hui. L'Ukraine est dans une situation effroyable. Et puis ça on le dit depuis toujours, l'épuisement des gens. Mais là, tu passes un cap où c'est même plus de l'épuisement, c'est au-delà de ça. Et puis surtout, il y a très peu d'espoir. Ils se sentent bien seuls, là, les Ukrainiens, à devoir faire face.
Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du reportage radio pour lequel vous avez été nominée, vous avez été lauréate notamment ?
Alors c'est peut-être le reportage auquel je tiens le plus. Pourquoi ? Parce que quand on travaille dans des pays en guerre, on relate des histoires effroyables. Mais les pays qui subissent la guerre, ça je l'ai vécu en Libye, je le vis en Ukraine, c'est des pays où les gens sont obligés de pas seulement survivre, je pourrais le dire comme ça, ils hypervivent. Quand tu comprends que tu peux mourir demain, bah, tu vis. Quand tu comprends que tu as un régime autoritaire qui peut venir t'envahir, tu défends la démocratie. C'est des gens qui ont cette espèce d'énergie, ces convictions parfois sur lesquelles nous on a tendance à trop s'endormir, à négliger. J'étais à Pokrovsk, c'est une ville dans l'Est. On comprend qu'elle va se faire envahir, démolir. Il y a encore quelques civils au moment où j'y suis. La plupart ont fui. Il y a des gens qui restent, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de refaire leur vie ailleurs dans le pays. Puis je rencontre d'abord une première femme, mais vraiment au hasard du micro-trottoir, parce qu'il y a tellement peu de civils que lorsque tu vois un civil dans la rue, tu l'interroges. D'autant plus qu'on peut bosser à peu près 5 heures par jour à Pokrovsk. Je crois à ce moment-là, à 14 heures, les gens n'avaient plus l'autorisation de sortir dans les rues à cause des bombardements. Donc il y avait une petite fenêtre comme ça exploitée. J'interroge cette femme. On parle de partir ou rester. Elle m'explique qu'évidemment, elle dort pas, sans anxiolytique, etc., etc. Que sa mère aussi est sur place, qu'elle ne peut pas la laisser tomber. C'est aussi ça qui l'enferme dans une ville qui est constamment bombardée. Et je devine qu'il y a une lueur, je la vois et je vois qu'il y a quelque chose de très heureux chez elle. Je n'ose pas lui demander parce que c'est hyper délicat. Encore plus si tu te trompes. Une ville se fait démolir et tu vas demander à quelqu'un s'il est heureux, quoi. Ça paraît complètement absurde, mais j'avais ce feeling-là, vraiment. Puis j'ai décidé de suivre mon flair. Je lui ai proposé de passer du temps. On est allé essayer de trouver un café, ce qui était une galère. Trouver un café à Pokrovsk, c'est vraiment quasiment mission impossible, mais ça nous permettait de passer du temps ensemble. D'avoir cette confiance qui te permet à un moment donné de lui dire tout simplement « je me trompe ou t'es heureuse ?» Et là, elle me dévoile que, du haut de ses 56 ans, elle découvre pour la première fois son plaisir sexuel avec les jeunes soldats qui viennent défendre la ville de Pokrovsk. C'est une bulle de joie, d'intensité, de vie. Et c'est un des reportages auxquels je tiens le plus, parce que je l'ai vécu sur les guerres que j'ai couvertes. Il y a des rires pour cacher les larmes. Il y a de la vie pour cacher la mort. C'était l'illustration de tout ça. C'est des sujets dont on ne parle pas. Ça existe. Et j'étais très très fière de la force de ces femmes qui acceptaient de m'en parler. Ça, c'est le miracle aussi de la radio, parce que c'est impossible à faire en télé. Impossible à faire en télé. Et elles m'ont fait ce cadeau-là, et moi, j'avoue que j'y pense très souvent à ces femmes. Et quand des fois, je me dis, allez, quasiment 4 ans en Ukraine, c'est dur, on en pleure parce qu'on voit la souffrance des gens, on se sent démunis, on prend dans la figure. Et ben pour moi, ces femmes, c'est du carburant. Elles m'obligent à me rappeler que dès lors qu'on est en vie, il faut voir la lumière partout où elle est et il faut être acteur de quelque chose. Il faut batailler pour défendre notre démocratie, il faut batailler pour se féliciter d'être en vie chaque jour qui passe, pour célébrer la vie, l'amour plutôt que les armes et la guerre. Donc elle me donne une force inouïe, ces femmes.
Avec la situation dont vous dites que c'est critique, etc., quels sont vos espoirs aujourd'hui pour l'Ukraine, de nouvelles avancées, que les habitants puissent rentrer chez eux, qu'ils aillent mieux? Qu'est-ce que vous espérez?
Moi, j'espère la paix. Mais je ne crois pas une seule seconde, malheureusement. On voit ce qui se passe avec Trump, aux États-Unis. L'Ukraine est... Je pense que les Ukrainiens le résument. À peu de choses près, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, face à une Russie qui est hyper puissante, extrêmement déterminée, et contrairement à ce qu'on a voulu parfois penser au début de la guerre à grande échelle, ils n'auraient pas la motivation, les moyens, ils ont la motivation et les moyens, malheureusement. C'est assez édifiant d'être en Ukraine là maintenant, j'espère me tromper, mais parfois j'ai l'impression d'assister à une bascule du monde, quoi. J'ai l'impression de... Là, c'est l'Ukraine qui souffre, mais Je commence de plus en plus à penser que malheureusement les Ukrainiens ont sans doute raison lorsqu'ils disent, et le hurlent depuis des années maintenant, « Là c'est nous, mais demain ce sera peut-être vous ». Et ça, là, ça fait écho en moi de plus en plus, étant donné ce que j'observe sur place.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci Chloé pour cette magnifique interview de Maureen Mercier et merci aussi à Ethan pour le montage de cette interview. Quand un journaliste est réduit au silence, parfois d'autres reprennent le travail et continuent l'enquête à sa place. Ça, c'est le principe de Forbidden Stories. Tout de suite, c'est Juliette et Lila qui prennent le relais avec leur interview, puis leur chronique.
Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Je m'appelle Laurent Richard, je suis journaliste et je suis le directeur de Forbidden Stories.
Est-ce que vous pourriez présenter le projet Forbidden Stories ?
Alors, le projet Forbidden Stories, c'est un projet qui consiste à poursuivre les enquêtes de reporters assassinés, menacés ou emprisonnés. Et notre manière de faire, c'est de le faire de manière collaborative. C'est-à-dire que si un journaliste meurt, on va s'associer à 40, à 50 pour prendre la suite et finir son enquête.
Qui est Victoria et quelle est son histoire ?
Victoria Rochina, c'était une journaliste qui avait à peine 28 ans et qui a été assassinée en Russie, qui est morte en captivité dans une prison en Russie. Alors qu'elle essayait de documenter ce qui arrivait à son peuple, c'est-à-dire la disparition de 15 à 20 000 civils ukrainiens qui ont été enlevés dans les territoires occupés. Elle voulait raconter leur histoire et elle a fini dans une prison. On a donc décidé de poursuivre son travail qui était extrêmement important et de porter à la connaissance de tout le monde l'existence de ces lieux de détention.
Aujourd'hui, vous poursuivez donc le travail de journaliste disparu. Et quelle était la première raison qui vous a poussé à monter ces projets et du coup cette association ?
C'est plusieurs raisons. Ça faisait déjà 25 ans que je faisais du journalisme d'investigation. J'ai souvent travaillé dans des pays compliqués où il n'y a pas trop de liberté de la presse. Puis il y a deux événements qui m'ont convaincu de lancer Forbidden Stories. L'arrestation d'une amie en Azerbaïdjan qui m'a écrit depuis sa prison pour me dire à quel point c'était important que son travail soit poursuivi. Et puis aussi l'attaque contre Charlie Hebdo qui était des voisins de la société de production à l'époque à laquelle je travaillais. Et je suis arrivé quelques temps après l'attaque et c'est évidemment une attaque qui m'a donné l'envie, la force de créer Forbidden Stories.
Est-ce que la mise en place du projet a été compliquée ?
Oui, c'est toujours compliqué de faire quelque chose qui n'avait pas été fait avant, où beaucoup de gens m'ont dit que ça ne sera pas possible parce que les journalistes détestent travailler ensemble, mais j'ai trouvé quand même plein de soutien dans plein de rédactions qui ont cru dans la démarche et qui voient aussi le journalisme comme quelque chose qui est extrêmement utile pour nous tous et qu'il sera encore plus utile si on s'associe ensemble sur des sujets majeurs et dangereux, comme le projet Victoria.
Et est-ce qu'aujourd'hui votre association elle est menacée ?
On fait toujours l'objet de menaces quand on est journaliste et qu'on va sur des investigations compliquées, des menaces judiciaires et on se défend avec des avocats, on peut être surveillé, il faut être très prudent. Mais la chance que l'on a, c'est qu'on est plusieurs, on est nombreux, on travaille en force et en groupe, donc on est costaud et on est inarrêtable.
Est-ce que l'histoire modifie la nature du métier, que ce soit lié à l'actualité ou le fait de travailler en collaboration ?
Non, on essaie d'adapter nos groupes de travail en fonction de l'histoire. On compose une équipe spéciale sur chaque projet et on va essayer de recruter les meilleurs talents pour pouvoir documenter telle ou telle histoire.
Et puisque vos journalistes ils poursuivent justement des projets, est-ce qu'ils n'ont pas un peu un rôle de justicier dans cette histoire ?
Non, on n'est pas justicier, on est journaliste. La seule justice que l'on veut donner, c'est la justice de l'information, de la connaissance, c'est-à-dire faire en sorte que les phrases, les titres, les mots et les informations que l'on va donner au grand public soient vérifiées, soient justes et représentent ce qui s'est passé à un instant T. Et donc notre souci, c'est celui de la précision, du détail et pour cela, on doit recouper nos informations et multiplier nos sources.
Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est mieux d'être un collectif de journalistes ou être plusieurs ?
Il faut être un collectif. Je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est d'être un collectif avec plusieurs journalistes à l'intérieur de ce collectif. Et c'est comme ça qu'on sera plus fort sur certains types d'enquêtes. Toutes les enquêtes ne méritent pas de monter un collectif, mais sur celles qui sont les plus compliquées, les plus dangereuses, il faut s'unir.
J'aurais juste une dernière question. Et donc au final, est-ce que être journaliste individuel, indépendant, être un loup solitaire comme vous dites, est-ce que au final c'est devenu trop dangereux aujourd'hui et qu'il est mieux donc de faire en équipe ?
Oui, parfois quand on est trop seul, on s'expose à des menaces et on voit au regard des profils de journalistes qui ont été assassinés, souvent ils étaient assez isolés. Isolés parce qu'ils n'avaient plus beaucoup de soutien autour d'eux. Et donc nous, on veut rompre ça et créer du soutien, créer du lien pour que les journalistes les plus en danger soient les moins isolés possible.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Donc Forbidden Stories, c'est une association qui est fondée en 2017 par le journaliste Laurent Richard. Son principe est aussi simple que puissant. Quand un journaliste est menacé, emprisonné ou assassiné à cause de son travail, d'autres journalistes prennent le relais pour continuer son enquête. Parce qu'une information ne devrait jamais mourir avec celui ou celle qui l'a révélée. Forbidden Stories intervient là où souvent le journalisme dérange, corruption, crime organisé, atteinte aux droits humains, pouvoir politique ou économique abusif. Aujourd'hui, l'association a su fédérer une immense collaboration internationale réunissant plus de 300 journalistes et 120 médias partenaires, parmi lesquels Le Monde, The Guardian ou encore The Washington Post. Mais ce qui fait vraiment la singularité de Forbidden Stories, c'est son Safebox Network. Traduisez, des journalistes du monde entier y déposent leurs documents sensibles, vidéos, notes ou preuves, dans un état ultra sécurisé. Si quelque chose leur arrive, ces informations ne disparaissent pas, elles deviennent au contraire accessibles à d'autres reporters prêts à poursuivre le travail.
L'un des projets les plus emblématiques de Forbidden Story est le Daphné Project. Daphné Caruana Galizia était une journaliste d'investigation maltaise. Elle enquêtait sur la corruption au plus haut niveau de l'État quand elle a été assassinée en 2017, tuée par l'explosion de sa voiture. L'objectif était clair, la faire taire. Mais au lieu de s'arrêter, son travail a pris une ampleur inédite. Forbidden Stories a alors coordonné une enquête collective réunissant des dizaines de journalistes européens et internationaux qui ont repris à leur tour les dossiers de Daphné, analysé ses notes, poursuivi ses pistes et publié ensemble leurs révélations. Ce travail a permis de mettre en lumière des réseaux de corruption, de blanchiment d'argent et de liens troubles entre le pouvoir politique et des intérêts privés à Malte. Le message envoyé était extrêmement fort. Assassiner un journaliste ne supprime pas son enquête, cela la rend mondiale. À l'heure où la liberté de la presse est fragilisée dans de nombreux pays, Forbidden Story rappelle une chose essentielle, informer c'est résister.
Ok, et pour continuer sur cette question qui parle comment et avec quel risque on va écouter une autre voix du journalisme, place à l'interview de Anne Poiré, menée par Chloé et Maureen avec le montage de Adem.
Alors bonjour, donc est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît?
Oui, bonjour, je m'appelle Anne Poiré, je suis réalisatrice et coproductrice du film Les fantômes de l'Ukraine et j'ai également fondé une société qui s'appelle After War.
Pourquoi avez-vous décidé de parler des disparus?
J'ai voulu faire un film sur les disparus parce que je m'intéresse à ce qui se passe après les conflits et que c'est une figure majeure des après-guerres. Après les conflits, les gens ont disparu et les familles les cherchent sans savoir s'ils sont vivants ou morts. C'est comme un peu des fantômes. Il se trouve qu'en Ukraine aujourd'hui, la recherche des disparus se fait pendant la guerre. Et donc normalement c'est après, mais là eux ils font ça pendant. Et donc je trouvais que c'était une façon de documenter à la fois l'endroit où les gens disparaissent et en même temps comment on les cherche, comment est-ce qu'on fait quand le temps passe, comment font toutes ces femmes pour les chercher.
Et est-ce que c'était facile de rester objectif pendant ce tournage avec toutes les émotions des femmes qui, pendant qu'elles nous racontent leur histoire ?
Alors on essaye effectivement de rester le plus neutre possible. Après on tisse des liens avec ces femmes, surtout quand ça fait 2 ans. Effectivement on a une forme de bienveillance, on a des liens avec elles qui s'imposent, mais on essaye de rester à notre place. C'est pas nos histoires à nous, on est là pour raconter et transmettre leurs histoires.
Pourquoi avez-vous choisi de filmer sur plusieurs années ?
La question des disparus, c'est que souvent il ne se passe pas grand-chose en fait. Justement, c'est ça le drame pour ces femmes, c'est qu'elles n'ont pas de réponse et il ne se passe rien. Et du coup, il fallait que le temps passe pour que les histoires puissent se dénouer et qu'ils puissent soit retrouver quelqu'un, soit mort, soit sur un compte quelque part, sur des images, soit arriver à trouver un moyen de tourner la page. Mais il fallait laisser passer le temps.
Et est-ce que vous avez parfois été un peu contrôlé pendant le tournage parce que des fois vous avez l'armée, des fois il y a des vidéos qui se passent sur le front, etc.
Alors non, on n'a jamais eu de contrôle particulier. On a besoin d'une autorisation de tournage pour aller en Ukraine. C'est une carte de presse où on se fait accréditer par le service de presse ukrainien. Mais une fois qu'on est sur place, quand on n'est pas sur le front comme nous on est loin du front, on n'a pas eu de contrôle particulier.
Beaucoup d'images sont floutées. Est-ce qu'il y a une explication pourquoi ?
On a souhaité flouter ces images parce que ce sont pour la plupart des gens qui sont prisonniers de guerre et donc il y a un respect de on ne peut pas montrer des gens qui sont, on doit protéger l'identité des gens qui sont prisonniers. Donc c'est la raison pour laquelle on a flouté les gens qui sont encore sous les ou qui ont été dans des conditions de dignité, qui peuvent porter atteinte à leur dignité.
Et est-ce que c'était difficile de forger un lien avec ces femmes ? Est-ce qu'au début certaines étaient réticentes pour le projet ?
Alors toutes n'ont pas accepté, mais celles qui ont accepté, elles ont envie, elles ont besoin de faire quelque chose pour qu'on fasse connaître leur histoire. Donc non, elles ont plutôt été très ouvertes, au contraire.
Avez-vous toujours contact avec les personnes que vous avez rencontrées là-bas ?
Oui, bien sûr, je suis toujours en lien avec elles.
Bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Merci Chloé, merci Maureen pour cette interview. Merci aussi à Adem pour le montage de cette interview. Maintenant, on passe à une photofiction sur l'Ukraine qui sera décrite par Noad, encore une fois, et expliquée, analysée par Daphné.
Cette photo semble à milieu de la guerre. La vie y est paisible, deux fleurs de tournesol gisent au sol. Mais elles ont été écrasées par le poids des soldats ou le poids des chars dans une épaisse terre noire.
Les balles fusent de toutes parts, installant le chaos et la violence. Elles jonchent le sol, tandis que les corps étendus imbibent la terre de leur sang. Un peu plus loin, dans un champ, j'ai une fleur. Elle a été écrasée, comme en témoignent ses pétales recroquevillés. La terre est marquée par de larges sillons. Ces traces ont été laissées par un char, imprimant profondément les motifs de ses pneus dans la terre fertile. La fleur souffre, elle supplie, agonisante. Ne le voyez-vous pas ? Sa bouche se tord en un cri silencieux. On aurait dit un petit morceau de soleil doré sur un ciel boueux. Un petit morceau d'espoir. Au loin, on entend le bruit des chars et des cris en russe et on pense. Alors la Russie va gagner la guerre ? La fleur frémit elle aussi à cette pensée. Sa tige fait un soubresaut. Ses feuilles tremblent. Donetsk a été écrasée par les Russes et les Ukrainiens, à l'image de la fleur, tremblent. La pluie commence à tomber, fine d'abord, presque timide, puis plus drue. Le ciel pleure devant cette scène désolante. Les gouttes lavent la poussière, frappent les soldats, qui lèvent la tête un instant pour observer les nuages. La fleur est toujours là, vivotante. Pourtant, elle refuse de mourir tout à fait. Malgré la pluie qui a délavé ses pétales, un éclat subsiste et s'accroche à la vie. Elle se souvient des étés brûlants, du calme, du parfum de la vie avant que de puissantes chenilles d'acier viennent labourer le sol. Les cris se rapprochent et l'un des soldats marche sur la fleur comme pour l'achever. Avant de mourir, la fleur aperçoit une graine à moitié cachée dans la terre. Sa dernière pensée est « Lorsque tout sera perdu, peut-être cette graine trouvera-t-elle la force de germer, de percer la terre retournée et de se dresser vers la lumière. » La fleur murmure « L'Ukraine vit encore. » Et puis, plus rien. Le bruit des pas se dissipe. La graine ignore tout de la guerre et de la folie des hommes et ne pense qu'à une chose, grandir. À travers la terre meurtrie, elle tente de s'élever avec une obstination presque héroïque. Y arrivera-t-elle ?
Merci à vous deux. Du coup, maintenant, je vais tout simplement léguer la parole à mon collègue Gaspard.
Merci Enzo et merci aux élèves pour cette partie sur l'Ukraine. Nous allons à présent parler des femmes dans la guerre. Lors de notre séjour à Bayeux, nous avons pu voir des expositions, des reportages et nous avons eu la chance de rencontrer et découvrir des femmes formidables avec une force remarquable. Nous consacrons donc cette avant-dernière partie à ces femmes exceptionnelles. Nous commençons tout de suite avec les carnets de bord lus par Daphné et écrits par Laura.
Lors de cette rencontre au pavillon, deux femmes réfugiées ont raconté leur parcours. Sylia Anna Bedialo, Mursal Sayas. Et une femme réfugiée a chanté quelques chansons. Elisabeth Kosiatiakina. Mural Sayas, militante pour les droits des femmes, a fui l'Afghanistan le 17 août, deux jours après la chute de Kaboul. Elle a pris le premier avion du pont aérien entre la France et l'Afghanistan et a atterri à Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle raconte que son pays lui manque beaucoup, mais qu'elle ne regrette pas d'avoir pris cet avion. Ces témoignages m'ont beaucoup touché. J'en garderai un beau souvenir.
Merci Laura pour cette écriture et merci Daphné pour cette lecture. Maintenant, Meghan, tu vas nous parler des femmes journalistes.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer le journalisme et les femmes incroyables qui l'exercent et l'ont exercé. Le monde dans lequel nous vivons évolue constamment. Pourtant, une vérité subsiste. Les hommes et les femmes ne sont pas traités équitablement. Dans un monde où une femme doit se battre davantage pour obtenir ce qu'elle désire, justement parce qu'elle est une femme, célébrer celles qui réussissent est essentiel. Connaissez-vous des grandes figures du féminisme ? Si ce n'est pas le cas, pas de problème, nous allons les découvrir ensemble. Les femmes ont notamment été présentes sur les zones de conflit où elles ont participé au journalisme de guerre. Première femme de cette chronique, et pas des moindres, Martha Gellhorn. correspondante de guerre américaine. Elle a couvert de multiples conflits, comme la guerre d'Espagne et le Vietnam. Mais elle est surtout la seule femme à avoir assisté au débarquement du 6 juin avec les troupes américaines. Elle avait à cœur d'illustrer la douleur civile pour que ceux qui ont souffert ne soient pas oubliés. Tout comme Gloria Emerson, qui a aussi été très présente lors de la guerre du Vietnam. Correspondante du New York Times, elle couvre le conflit en soulignant la souffrance humaine et la désillusion politique de la façon dont la guerre du Vietnam a été menée. Son talent a été récompensé en 1967, où elle reçoit le National Book Award pour son livre « Winner and Loser ». Ces femmes n'étaient pas seulement témoins, elles étaient aussi des voix, des regards, des consciences du temps de chaos. Si certains ont risqué leur vie sur le terrain, d'autres ont combattu autrement, avec leurs mots, dans des pays où la liberté d'expression n'existait pour ainsi dire pas du tout. C'est le cas de Slevat Alekdeshik, journaliste et écrivaine qui a vécu en URSS. À travers ses ouvrages, elle a donné la parole à celles et ceux que l'histoire avait oubliés. Survivants de Tchernobyl, soldats d'Afghanistan, femmes soviétiques, des témoignages bruts, intimes, qui constituent une véritable mémoire collective. Elle a également obtenu le prix Nobel de littérature en 2015. Vous voulez en savoir plus sur le travail de ces femmes inspirantes? C'est simple, vous n'avez qu'à lire leurs livres. Et oui, loin d'être satisfaites de leur métier de journalisme et des prises de risques au nom de la liberté de l'information, elles appartiennent aussi à la littérature. Parce que le courage n'a pas de genre. Merci de m'avoir écouté.
Merci Meagan pour cette chronique passionnante. À présent, c'est Elisa et Maureen qui vont nous raconter et nous décrire l'exposition sur les correspondants de guerre devenus écrivains que nous avons eu la chance de voir à l'Hôtel du Doyen.
À la fin du mois de juin 2025, on comptabilisait près de 42,5 millions de personnes réfugiées dans le monde. Toutes ont quitté leur maison, ou plutôt ont fui, car rester était devenu impossible pour diverses raisons. Et avant que Jean-Claude, 58 ans, patriote, évidemment, nous explique que ces gens exagèrent, qu'on n'a pas de preuves, on voudrait vous raconter une histoire. L'histoire de ceux qui n'ont pas fui. L'histoire de ceux qui sont allés au devant de la peur, au plus près de la guerre. L'histoire de ceux qui ont tant fixé l'horreur qu'ils ont dû chercher un exutoire et qu'ils l'ont trouvé dans l'écriture. Cette histoire est celle des correspondants de guerre.
Lors de notre deuxième jour à Bayeux, nous avons visité une exposition consacrée aux correspondants de guerre devenus écrivains. Et c'est justement à eux que nous allons maintenant nous intéresser. Dès le début, une citation d'Egon Erwin Kirsch nous interpelle. « Le reporter n'a aucune orientation, rien à justifier et aucun parti pris personnel. Il doit être témoin, impartial, apporter un témoignage neutre, aussi fiable que l'on peut être une parole. » Cela en dit long sur le métier de correspondant de guerre. Ils doivent absolument être neutres et objectifs en dépit de tout. Quand bien même certains d'entre eux sont déjà d'éminents écrivains, dont le métier est justement d'inventer, d'imaginer à partir de faits, ce paradoxe est le fil rouge de l'exposition, entre neutralité et invention.
Jack London commence ainsi sa carrière de journaliste en 1904. Il voit tant d'innocents mourir que le reportage seul ne lui suffit plus, alors que la fiction, toujours inspirée de la réalité, lui permet de témoigner autrement, au-delà des bornes imposées par le journalisme.
Au contraire, pour d'autres, comme Martha Gellhorn notamment, le reportage de guerre est une mission sacrée qui consiste à relater l'entière vérité. Et lorsque le journalisme ne suffit plus, la narration en devient un prolongement, une extension permettant de clarifier les idées et les situations via une mise en contexte différente.
Enfin, il arrive aussi à l'écriture de servir de mise en garde, de barrage contre la propagande et la suppression des libertés. George Orwell écrit ainsi 1984 et La ferme des animaux, qui dénoncent tous deux les dangers de la désinformation et plus généralement du despotisme, après avoir couvert la guerre civile espagnole.
Toutefois, il arrive aussi aux écrivains de devenir les pantins du gouvernement, lorsque celui-ci a besoin de remonter le moral de la population ou de justifier le conflit. Dès lors, les articles ainsi parus ressemblent fortement à de la propagande. Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, suit par exemple la guerre des Boers en 1980 suite à la demande du gouvernement britannique, en partie car son fils est engagé sur le front. Cependant,
en conclusion, tous les correspondants de guerre ont témoigné, avec plus ou moins de neutralité, de l'atrocité des conflits qu'ils ont couverts. Et la majorité de ces reporters se sont finalement tournés vers l'écriture de romans afin d'expurger les abominations auxquelles ils ont été confrontés.
À présent, beaucoup d'entre eux sont célèbres pour leurs travaux d'écrivains, plus que de journalistes. C'est pourquoi cette exposition à laquelle nous avons assisté était très intéressante pour approfondir, voire découvrir ces personnalités, en réalité méconnues.
Merci les filles pour cette chronique. Maintenant, Daphné, peux-tu nous lire le dernier carnet de bord de Laura ?
Tout à fait. Ce voyage au Prix Bayeux a été une expérience incroyablement enrichissante. J'ai énormément appris sur le journalisme, sur les enjeux mondiaux, et j'ai été profondément touchée par les documentaires visionnés. Le premier jour a été pour moi assez difficile car les films qu'on a pu voir étaient assez éprouvants. Je tiens à remercier les professeurs qui m'ont accompagnée tout le long du séjour. Cet événement a confirmé mon intérêt pour le journalisme et j'ai hâte de continuer à m'impliquer dans le club média au lycée.
Merci à toutes et tous pour votre travail sur les femmes dans la guerre. Il est important de les mettre à l'honneur, donc nous vous remercions.
Retour sur le prix Bayeux, Calvados Normandie, des correspondants de guerre.
Il y a la gerbe de flamme, il y a le blast, il y a la poussière.
L'atelier média, s'exprimer pour comprendre.
Malheureusement, la deuxième partie de notre émission sur Bayeux prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les élèves qui ont participé, écrit, lu, travaillé et monté durant cette émission. Je remercie aussi nos professeurs, Madame Romain, Monsieur Le Poitvin, Madame Chenu et Madame Stiefel, pour leur aide apportée à notre émission. Je remercie également la régie, sans qui aucune émission ne serait possible, malgré des petites erreurs. Et merci à Jules et Enzo pour l'animation de cette émission tout au long de la journée. On espère que cette émission vous aura plu. Merci à vous, auditeurs, d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission sur Bayeux.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.